Europe 1.
Ondelat raconte.
Christophe Ondelat.
Je vais vous raconter l'histoire du plus grand tueur en série français. Enfin, du possiblement plus grand tueur en série français, parce que vous verrez, cette histoire se termine par un coitus interruptus. Il s'appelle Yvan Keller. Il a avoué 150 meurtres de vieilles dames. On lui en colle à coup presque sûr 22. Tout ça se passe dans les années 90 en Alsace, d'où le choix de mon invité pour le débrief, Jean-Marie Storkel, à l'époque journaliste au journal L'Alsace et auteur d'un livre aux éditions Basberg qui s'appelle 50 nuances de crime et qui traite notamment de cette affaire. Interview disponible dans un deuxième podcast. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation signée Mathieu Fret.
Europe 1. Christophe Ondelat.
Ça se passe le 29 avril 1994 dans un petit village d'Alsace, Burnop-le-Haut. C'est ce jour-là qu'on retrouve Augusta Wassmer morte dans son lit. Elle avait 77 ans. Ça faisait plusieurs jours que ses voisins ne l'avaient pas vue et ça les a intrigués parce que d'habitude, elle sortait tous les jours dans son jardin. Alors ils ont alerté la famille, ils sont arrivés, ils ont cassé un carreau pour rentrer et ils l'ont trouvée morte dans sa chambre. Au début, ça n'est pas une mort inquiétante. Elle est couchée sur son lit, droite comme un i, les bras bien le long du corps, avec le dessus de lit sous le menton. On dirait qu'elle est déjà au funérarium. Son visage est paisible. Elle est morte pendant son sommeil, et puis c'est tout. Morte de vieillesse. Bon, écoute, je vais appeler le docteur qui vienne constater son décès. C'est à partir de là que ça se complique. Le médecin arrive, il se penche sur le corps et là, il se tourne vers la famille.
Je suis désolé, messieurs, dames, mais je ne vais pas pouvoir signer le certificat de décès.
Ah bon? Et pourquoi?
Écoutez, ça fait trois fois que je viens dans cette rue, trois fois en trois mois, et à chaque fois on m'a demandé de constater le décès d'une vieille dame morte, à peu près dans la même position, sagement couchée sur son lit. Alors en janvier, c'était Madame Winderoller, 82 ans, elle était âgée, mais elle était en bonne santé. Et après, en février, ça a été Madame Mang, hein, 86 ans, et elle aussi avait la tête bien posée sur l'oreiller. Et maintenant, c'est votre mère. Vous comprenez que ça m'intrigue. Et donc cette fois-ci, je suis désolé, mais je veux que les gendarmes soient prévenus. Si ça se trouve, c'est le hasard. Mais quand même, je préfère avoir l'avis des gendarmes.
Sage décision. Et donc les gendarmes débarquent.
Bon, messieurs, dames, imaginons que son décès soit de nature criminelle. A priori, rien ne l'indique, mais imaginons. Est-ce que vous avez constaté qu'il manquait des choses dans la maison ?
Ben non. Enfin, je crois pas.
Vous n'avez pas constaté que les armoires avaient été fouillées, par exemple?
Non.
Pas de traces d'effraction?
Non plus.
Et les deux autres, Madame Winterroller et Madame Mang, idem. Quand elles sont mortes, leurs familles n'ont rien trouvé d'anormal. Cela dit, maintenant qu'il y a cette suspicion de crime, le fils de Madame Mang veut bien reconnaître qu'il s'est passé deux ou trois choses bizarres à la mort de sa mère.
C'est-à-dire que c'est plus tard que je me suis aperçu que la grille du soupirail au sous-sol avait été décelée. Alors, c'est moi qui l'avais installée, cette grille, à peine quelques mois plus tôt. Mais sur le moment, bon, j'ai pas cru à mal.
Et c'est tout?
Non, non, on lui a volé de l'argent aussi. Je sais qu'elle gardait environ 30 000 euros, je crois, pour qu'on lui paye les obsèques, justement. Et c'est vrai qu'au moment de sa mort, on ne les a pas retrouvés.
Bizarre, bizarre. Sauf que le procureur, du coup, a ordonné une autopsie du corps d'Augusta Wassmer, qui vient de mourir, et on ne s'attendait pas du tout à ce verdict.
La pauvre femme s'est étouffée dans son sommeil. Il s'agit donc d'une mort naturelle.
Donc, Augusta est bien morte de sa belle mort.
Eh bien, c'est pas sûr. Car ses enfants aussi viennent de s'apercevoir que finalement, il manque des choses chez leur mère.
Avec du recul, on n'arrive pas à retrouver une boîte dans laquelle elle mettait de l'argent. Et surtout, on n'a pas retrouvé sa carte bancaire. Alors on est allé voir son compte et on s'est aperçu qu'à 3 reprises, on avait retiré 1000 euros sur son compte.
Et quand ont eu lieu ses retraits ?
Eh ben c'est ça le problème. Ils ont eu lieu après son décès.
Après son décès ? Donc il n'y a plus de doute. Elle n'a pas pu mourir de sa belle mort et retirer de l'argent le lendemain. À moins que ses petits-enfants, par exemple, n'aient opportunément profité de la mort de mamie pour faire main basse sur ses économies. C'est une première piste. Les 2 petits-fils d'Augusta se retrouvent donc face aux gendarmes. Mais pas longtemps, puisque de toute façon, mamie est morte de mort naturelle. Et les 2 autres ? Ah ben c'est le hasard. Affaire classée. À partir de là, les années passent et maintenant on est en 2003. Ça fait 9 ans qu'Augusta est morte. Et un jour de juin, un homme se présente au commissariat de Mulhouse, un hurluberlu, très agité, incohérent, manifestement un peu zinzin.
J'ai très grave révélation à faire. Très grave. Très 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 grave.
Les flics à l'accueil l'enverraient bien à l'HP gober une petite pilule bleue, mais ils préviennent quand même le patron de la crime.
Venez là, monsieur. Vous allez m'expliquer.
Expliquer ? Mais il n'attend que ça. Sauf que pour comprendre ce qu'il a à dire, faut s'accrocher.
Alors je vais vous dire tout, hein, mais faudra me croire, hein, parce que déjà je ne me crois pas. Mais moi, je raconte pas de conneries, hein, parce que les conneries, oh, j'en entends assez, hein, les gens sont fous.
Monsieur, calmez-vous. Essayez de me dire ce que vous voulez me dire.
Ah, mais ce que je vais vous dire, c'est important, hein. C'est rapport à une femme que je fréquente, depuis un mois. C'est une sacrée fille, hein, je peux vous dire.
Monsieur. Concentrez-vous sur ce que vous avez à me dire.
Ben, elle s'appelle Marina. C'est une bonne fille, hein, je vous jure, monsieur le commissaire. Oh, ben, c'est une bonne fille.
Concentrez-vous, monsieur. Allez, faites un effort.
Bon, d'accord. Cette fille, avant, dans les années 90, elle était avec mon frère. Oh, ça durait des années. Oh, ben, c'est bien, hein, quand ça dure des années.
Monsieur... Où voulez-vous en venir ?
Eh ben, cette fille, elle m'a dit qu'autrefois, avec mon frère, ils ont fait des cambriolages et qu'à l'époque, ils ont tué des gens. Tué, monsieur le commissaire, oui, tué. Enfin, mort, si vous voulez. Elle m'a dit qu'il y avait eu un meurtre à Morcheviller-le-Bas. Là, c'est elle qui a tué, puis un autre meurtre à Brunstatt. Là, c'est mon frère. Et c'est une vieille femme qui l'a tué.
Et il s'appelle comment, votre frère ?
Mon frère ?
Oui, votre frère.
Eh ben, il s'appelle Keller, comme moi.
Son prénom ?
Yvan. Yvan Keller.
Le type, toujours aussi agité, raconte que le frérot avait une technique, toujours la même. Une fois dans la maison, il allait directement dans la chambre et il étouffait l'occupante avec son oreiller. Et après, il fouillait la maison en remettant tout bien à sa place à chaque fois. Et il emportait ce qu'il trouvait.
Et alors, avant de partir, il mettait la dame bien droite dans son lit, comme si elle était morte de vieillesse. Comme ça, il n'y avait pas d'enquête. Ça vous a intéressé, monsieur le commissaire, ce que je viens de vous dire ?
Oui, monsieur. C'est intéressant. Vous allez rentrer chez vous, hein, maintenant ?
Non, mais ça vous a vraiment intéressé ?
Oui ! Au point d'ailleurs que le flic rentre le nom de cet Yvan Keller dans le fichier. Ah ! Il est connu, le monsieur. Il a été condamné en 1984 pour un braquage et une série de cambriolages. Ça lui a valu 10 ans de prison. En revanche, depuis qu'il est sorti, rien.
Oh, dis-moi, tu peux vérifier s'il y a eu un meurtre à Morcheviller
Dans les années 90? Une vieille dame, a priori.
La réponse est oui. Sauf qu'à l'époque, un type a avoué. Un type de la famille. Donc? Ah ben donc, ce type complètement zinzin raconte n'importe quoi. Sauf qu'un policier de la brigade commence à se gratter la tête. Cette histoire de tueur de vieille dame dans les années 90, ça lui rappelle quelque chose.
Tu devrais aller voir Daniel. C'est lui qui a travaillé là-dessus à l'époque. Je crois qu'à l'époque, le nom de ce Keller était déjà sorti.
Daniel est un ancien de la crime. Il est à la retraite. Mais il n'a pas perdu la boule, hein. Cette histoire de tueur de vieille dame lui dit en effet quelque chose.
Je crois que c'était en 1993. Oui, c'est ça. 93. Un soir, on a arrêté un gars sur un parking, un gars qui s'appelait François de Nicolo. Juste pour un contrôle, tu vois. Et là, le type s'est mis à dire, ouais, vous emmerdez les honnêtes gens, alors que vous laissez courir ceux qui volent et ceux qui tuent les grands-mères. Ah, je lui ai demandé, bah, t'en connais des types comme ça qui tuent des grands-mères? Et là, il m'a balancé un nom. Il m'a balancé le nom d'Yvan Keller. Il disait que c'était un copain à lui et il s'est mis à me raconter que le type rentrait la nuit chez les vieilles dames et qui commençait par les étouffer et puis après qui cambriolait la maison.
Et t'as fait quoi à l'époque?
Ben, on s'est rencardé pour savoir s'il y avait des vieilles dames qui avaient été tuées et en l'occurrence étouffées à l'époque. Et alors on est tombé sur trois affaires, trois vieilles dames qui habitaient la même rue et qui étaient mortes à quelques semaines d'intervalle.
Et alors?
Et alors le légiste a conclu que c'était des morts naturelles. On n'est pas allé plus loin.
Donc les policiers se disent, il y a 10 ans, on a déjà dénoncé cet Yvan Keller en tant que tueur de vieille dame. Ça peut pas être le fruit du hasard. La piste est plus crédible qu'on ne le pensait. Faut se rencarder sur ce Keller. Et vite.
Bon, voilà ce que j'ai pu apprendre sur lui. Il est né en 1960. Petit dernier d'une famille de 9 enfants. Sa mère est morte quand il était gamin. Et c'est le père, figure-toi, qui aurait poussé ses fils à se lancer dans des cambriolages. Donc ça commençait par des vols de vélo, et puis après des petits cambriolages, et puis un braquage dans un bistrot, et puis des vols avec violence. Et, mais ça on le savait déjà, il a fini par se retrouver dans la cour d'assises. Il a été condamné à 10 ans, il en est sorti en 89. Et depuis, ben plus rien. Le type se tient à carreau, semble-t-il.
On sait où il vit aujourd'hui.
Oui, oui, oui. Rue de Verdun à Mulhouse, dans une jolie maison. Il a une femme, il est jardinier.
Et là, vous vous dites, ah ben, il n'y a plus qu'à aller l'arrêter, cet Yvan Keller. Le secouer un peu pour savoir s'il est mêlé à des meurtres de vieilles dames. Sauf que c'est pas si simple. Parce que qu'est-ce qu'on a contre lui à ce stade? Pas grand-chose. Il a été dénoncé par son frère qui est complètement maboule. C'est un peu court. Et donc, il est décidé de le placer sous surveillance, et notamment sur écoute, et de continuer à se rencarter sur lui, sur sa vie ces dernières années. Et c'est très intéressant.
Bon, donc le gars est jardinier, mais alors il n'a pas du tout le train de vie d'un jardinier. Hein. D'après ce qu'on m'a dit, c'est un gros joueur. Hein. Il va beaucoup au casino, il joue au tiercé aussi. Mais alors de grosses sommes, hein. On m'a parlé d'une fois où il avait posé 8000 francs au guichet d'un champ de course, quoi. 8000 francs pour un seul canasson. C'est quand même bizarre pour un jardinier. Tu trouves pas?
Et à côté de ça, monsieur a emmené madame en week-end à Paris. Et vas-y que ça dîne à la Tour d'Argent. Et vas-y que ça dort au Ritz. Et vas-y que ça part en vacances à Cuba. Sacré train de vie, effectivement, pour un jardinier. Et ce n'est pas le PMU qui lui a rapporté cet argent, ni le casino. Donc le type est louche, effectivement. Il a probablement continué ses activités de cambrioleur après sa sortie de prison. Mais toujours rien n'indique
qu'il est un tueur de vieilles dames.
Les policiers décident alors de ressortir tous les vieux dossiers qui concernent des morts suspectes de vieilles dames, suivis de cambriolages.
Dis, j'ai peut-être quelque chose. Une dame de 77 ans, c'est son petit-fils qui l'a retrouvée morte dans son lit. Elle avait les bras bien alignés le long du corps et les draps étaient impeccables. Ce qui a étonné le petit-fils à l'époque, c'est qu'elle avait son dentier. Comme tu le sais, le dentier, en général, on ne le garde pas la nuit. Hein. On le met dans un verre d'eau sur la table de nuit. Et là, ce n'était pas le cas. Et en plus, le petit-fils a remarqué que le dentier était traviole dans sa bouche et qu'elle avait surtout des hématomes au coin des lèvres. Mais bon, comme dans les trois autres affaires, ben, le médecin a conclu une mort naturelle et c'est pas allé plus loin. Quoi.
Celle-là, plus les trois autres, on en est déjà à 4 vieilles dames mortes. Mais toujours rien qui implique directement cet Yvan Keller. C'est là que les policiers de Mulhouse décident de prendre contact avec le fameux François de Nicolo, qui avait balancé Keller au début des années 90. Attention, il ne le place pas en garde à vue, trop tôt. Il lui donne rendez-vous dans un bistrot.
Bon voilà, on voulait te voir parce que donc on travaille sur une enquête et on s'est dit que peut-être tu pourrais nous aider.
Aucun problème.
Vous savez, je suis un indique. Je balosse souvent des trucs à vos collègues.
Eh bien, tant mieux. Donc, il y a quelques années, je ne sais pas si tu te souviens, tu as raconté à un de nos collègues que l'un de tes amis d'enfance, un gars qui s'appelle Yvan Keller, avait tué des vieilles dames pour les cambrioler. Ça te dit quelque chose?
Et là, il déroule direct. Oui, il connaît cet Yvan Keller. Et oui, il pense qu'il a tué des vieilles dames.
J'en ai parlé à plein de monde. Personne n'a jamais voulu me croire.
Eh ben non, on te croit. Alors dis-nous ce que tu sais. Ça le flatte, l'indique. Ou le soi-disant indique. On l'écoute enfin. On le prend enfin au sérieux. Ce De Nicolo est tellement content qu'il se balance lui-même.
Pour vous dire si je sais des trucs, c'est moi qui lui ai donné des adresses de vieilles dames à l'époque. Des amis de ma mère, à Wittenheim et à Mulhouse. Des vieilles que je savais qu'elles avaient de l'argent caché chez elles, quoi.
Magique! On ne lui avait rien demandé. Et voilà que ce De Nicolo s'accuse lui-même de complicité. On est chez les fous dans cette enquête. Chez les timbrés. Et c'est pas fini.
Moi, je l'ai accompagné plusieurs fois hein, sur place, pendant qu'il cambriolait. Je faisais le guet. J'attendais qu'il ait fini, quoi.
Et vous avez fait ça combien de fois?
3 fois. Et alors, ce qui m'a titillé, c'est qu'après, ben, j'ai appris que les femmes, elles étaient mortes, quoi. Et ça, ben, ça m'a pas plu du tout, quoi. Moi, j'étais d'accord pour des cambriolages, mais pas plus. Alors après, ben, j'ai arrêté de travailler avec lui. Parce que je me suis dit, ben, il va tuer ma propre mère hein, si ça continue, vous voyez.
On voit très bien. On voit surtout que ça fait 3 victimes de plus à ajouter aux 4 autres. 3 plus 4 = 7. Yvan Keller a possiblement tué 7 vieilles dames. Il est peut-être temps de le placer en garde à vue, le camarade Keller. On est en septembre 2006. Et tant qu'à faire, les policiers interpellent tous ses proches. Sa compagne, ses copines, ses copains foireux, ça fait 18 personnes au total. Et bien sûr, l'arrestation d'Yvan Keller est accompagnée d'une perquisition en règle de sa maison. Une belle maison,
presque une maison bourgeoise. Et dedans, des antiquités en veux-tu, en voilà. Le luxe, le très grand luxe. Ça paye, jardinier, manifestement. En garde à vue, c'est l'une de ses ex-petites amies qui s'appelle Marina qui passe à table la première.
Je suis allé une fois avec lui pour un cambriolage. C'était chez une vieille dame. Yvan, il a commencé par l'endormir. Et après, on a fouillé la maison. Et on a pris tout ce qu'on pouvait, tout ce qui avait de la valeur, quoi.
Endormir ? Elle est sûre que c'était endormir. En attendant, le cambriolage qu'elle vient de raconter chez cette vieille dame endormie n'était pas dans la liste. 7 plus 1 égale 8. Et Yvan Keller, alors, qu'est-ce qu'il raconte aux policiers qui l'interrogent ?
Je sais pas de quoi vous me parlez. J'ai rien fait.
L'enquête démontre pourtant que des cambriolages auxquels vous avez participé se sont mal terminés, notamment par la mort de la victime du cambriolage.
Je vous dis, je vois pas de quoi vous me parlez.
Mais alors, d'où vous vient tout cet argent que vous avez, monsieur Keller ? Votre maison, vos voyages, vos séjours à Paris, dans les grands hôtels, et puis tous les cadeaux que vous faites à votre entourage.
Oh ben c'est le fruit de mon travail. Je travaille assez, vous savez.
La bourrique ne lâche rien. Et la pendule tourne. Il va falloir bientôt le relâcher.
Je ne sais pas si vous êtes au courant, monsieur Keller, mais outre votre personne, nous avons 17 personnes de votre entourage en garde à vue en même temps que vous.
Et donc, si ça se trouve, y en a un qui va balancer, quoi. Hein. Ou peut-être quelqu'un a déjà parlé. Auquel cas, je vous invite à parler vous aussi. Vous savez, c'est toujours mieux d'avouer que de se faire dénoncer. Hein. Le juge appréciera, je pense.
Ah. Bon, d'accord, je vais parler. Mais je mets 2 conditions. Et de 1, vous relâchez ma copine, elle y est pour rien. Et quand elle sera relâchée, vous vous arrangez pour qu'elle quitte Mulhouse. Hein. J'ai pas envie que les journalistes lui tombent dessus après que je vous ai parlé. Et de 2, à la prison, il faut que vous me mettiez en cellule d'isolement. Vous savez comment c'est, avec ce que je vais vous dire, là. Ils vont me tomber dessus, les autres. Alors, vous êtes d'accord ?
Les policiers appellent le juge. Il est OK pour lever la garde à vue de sa copine, qui, a priori, n'a rien fait. Et dans la foulée, Keller tient sa promesse.
Bon, je reconnais que pendant des années, j'ai cherché des maisons qu'elles étaient isolées, et qu'il y avait des vieilles dames seules qui étaient dedans. À cet âge-là, je me disais, elles ont forcément de l'argent chez elles. Les vieilles, elles aiment pas trop les banques. Donc je rentrais, je les endormais, et après je fouillais la maison et je prenais tout ce qui valait de l'argent. Et après je rangeais tout bien, pour pas qu'il y ait une enquête, pour que ça paraisse normal, que la dame, elle s'était endormie de vieillesse. Et puis c'est tout. Parfois, ça m'arrivait de faire ça 2 fois, 3 fois dans la même journée. J'ai fait ça, jusqu'au début des années 2000. Ça vous rapportait beaucoup d'argent. Ah oui, oui. Les bons mois, ça me faisait dans les 500 000 francs. Quand vous dites que vous les endormiez, monsieur Keller, on est d'accord que vous les étouffiez, que vous les tuiez. Oui, on est d'accord. Et vous savez combien de vieilles dames vous avez endormies, comme vous dites ? Je sais pas trop, mais ça doit faire au moins 100, peut-être 150. « 150 ? Mais ce type alors serait le plus grand tueur en série de l'histoire de France.
Il promet qu'il fera tout pour aider la police, qu'il aidera à dresser la liste.
Oh, j'ai une bonne mémoire. Si vous me donnez des cartes et tout ça, je vais tout faire pour me souvenir de tout.
Le soir même, Ivan Keller est mis en examen pour assassinat au pluriel. Et au juge aussi, il fait la promesse de tout dire. Et puis il lui rappelle le deal qu'il a passé avec les policiers avant ses aveux.
Je sais que ma copine Séverine, elle a été relâchée.
Ben, c'est normal, elle y est pour rien. Mais ils m'ont promis qu'ils allaient la mettre sous protection et l'emmener loin de Mulhouse.
Ils vont le faire, hein, monsieur le juge? Ils vont le faire.
Disons que juridiquement, ça me paraît difficile.
Elle a été relâchée, monsieur Keller.
C'est déjà ça.
Oh ben voilà, avec tout ce que je viens de vous dire là, il va lui arriver des ennuis de votre faute. C'est pas normal. Vous tenez pas vos promesses.
Si j'avais su que j'aurais pas fait d'aveu, hein. Je me suis fait avoir, hein.
C'est pas la peine de me donner le procès-verbal. Je le signerai pas.
Eh ben, tant pis. De toute façon, il file en prison, et en attendant, le juge le fait placer dans une cellule au sous-sol du palais de justice. Et quelques heures plus tard...
Entrez !
Monsieur le juge, pardon de vous déranger, mais Keller s'est pendu dans sa cellule.
Pendu ? Mais avec quoi?
Avec les lacets de ses patogas.
Putain, on lui avait pas enlevé les lacets, mais c'est la procédure, bordel!
Et voilà, c'est fini. L'enquête vaillamment menée par la police depuis 3 ans va finir sur une étagère à prendre la poussière. Le plus grand tueur en série français ne sera jamais jugé. Et pire que ça, en droit, il est innocent. Alors, combien en a-t-il vraiment tué? Il a dit entre 100 et 150. Il s'est peut-être un peu poussé du col. L'enquête lui attribue, à coup presque sûr, 23 meurtres. C'est déjà beaucoup.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.